Quand même pas, papa. Le carnet de bord d'un proche aidant.
Pour ma fille, qui devient de moins en moins autonome, du moins seule, y a beaucoup de besoins qui sont assumés par des personnes qui sont autour d'elle. Et ces personnes sont diverses, se relaient au fil de la journée, de la semaine, et doivent partager des informations communes et puis un certain nombre de matériels pour que le quotidien de ma fille soit le plus confortable. Dans cet épisode, je vais raconter un petit peu cette dimension de travail d'équipe. Mais avant de commencer, je voulais juste placer un point important qui permet de comprendre la suite, quelque chose qui fait que ces besoins existent. En fait, ma fille, elle n'est plus aujourd'hui en capacité d'exprimer ses envies, d'exprimer ses besoins, même d'exprimer ses besoins vitaux. C'est les personnes qui sont autour d'elle qui assument ça en considérant en bienveillance ce qu'elle aime, ce qu'elle a toujours aimé, la manière dont elle communique malgré tout pour exprimer ses ressentis, ses envies du moment, mais qu'il faut interpréter, c'est-à-dire qu'il y a une assistance autour d'elle qui lui permet de vivre au quotidien, de choisir ce qu'elle va manger, quand elle va manger, si elle va aller aux toilettes, ce qu'elle écoute comme histoire. Les musiques qu'on va faire, la pièce dans laquelle on va, toute cette dimension du quotidien entier n'est possible pour elle que grâce à l'équipe qui l'entoure. Et cette équipe, comme j'ai dit dans l'introduction, elle fluctue au fil de la journée. Parfois, ça va être l'un ou l'autre de ses parents ou alors des proches. Parfois, ça va être une équipe de professionnels qui vont se relayer. Et bien sûr, pour pouvoir intégrer une nouvelle personne dans cette équipe, mais aussi pour pouvoir communiquer entre les personnes qui déjà constituent cette équipe, il faut des outils, il faut la logistique. Alors bien sûr, il y a des équipements, des dispositifs qui ne sont pas déplaçables. Je pense par exemple à un siège de douche, à un lit médicalisé. Là, évidemment, il faut dédoubler ou détripler autant qu'il y a de lieu de vie ce matériel pour qu'il corresponde à ses besoins à chaque fois. Souvent, on s'organise pour que ce soit le même matériel, de sorte qu'il n'y ait pas de surprise pour elle quand elle va être prise en charge dans un endroit ou dans un autre. Mais il y a certains équipements qui, au contraire, peuvent pas être dupliqués. Je pense par exemple aux petites peluches qui deviennent des éléments centraux pour se rassurer. Pour elle, il faut toujours qu'elle en ait un dans la main. Ces petits objets, ces petits doudous, il est indispensable qu'ils la suivent. C'est pareil pour les médicaments de prise en charge d'épilepsie, les médicaments de prise en charge du sommeil, tous ces éléments qu'on ne peut pas dupliquer, là, il faut que ça l'accompagne. Mais comme la maladie avance vite, il arrive parfois qu'il y ait un endroit où il y a un équipement qui arrive rapidement. Je pense par exemple à des protections pour l'incontinence. On s'équipe, mais il faut bien sûr pouvoir fournir aux autres endroits où elle est au quotidien les mêmes dispositifs. Donc on se retrouve régulièrement à transporter de nouveaux équipements, du nouveau matériel, parce que temporairement, comme ça, on assume dans chacun de ces lieux de vie ses besoins spécifiques. Ça veut dire que cette logistique, elle est tout le temps mouvante. Il faut tout le temps être en capacité de réadapter les choses. Là, par exemple, on se questionne sur un fauteuil plus adapté à ses besoins, qui la maintienne mieux. Plutôt que d'avoir deux fauteuils suivant les endroits où elle est, maintenant, on va devoir trouver des solutions techniques pour pouvoir transporter efficacement un fauteuil et puis lui fournir la même qualité de maintien, peu importe l'endroit où elle sera. Ça veut dire aussi que toutes les personnes qui sont autour d'elle, ils doivent apprendre à s'adapter à ces nouveaux dispositifs. Et aussi, très important, et ça va être un des sujets que je vais développer dans la suite, être en capacité de transmettre et de se transmettre efficacement les informations qui vont permettre d'accompagner au mieux ma fille au fil de ses besoins qui apparaissent, mais aussi en informant du déroulé de la journée et des informations importantes qui permettent la continuité et la prise en charge. Puisque pendant plusieurs années, elle a été accueillie dans un centre pendant la journée, naturellement, il y a un système de cahier de vie, de messages entre l'équipe et puis les parents qui s'est mis en place. Quelque chose de classique, dans lequel on note au quotidien les besoins spécifiques. C'est parti de quelque chose de simple et de classique comme ça, puis au fil du temps, on a dû consolider l'usage de ce dispositif. D'abord parce qu'elle a deux foyers, ça veut dire qu'il faut que cette communication, elle soit pas bilatérale, mais plutôt multipartite, tripartite là, mais parfois même un peu plus. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas simplement avoir utilisé des sous-entendus, il faut être vraiment explicite, mais aussi parce qu'au fil du temps, il y a eu des besoins plus lourds qui se sont installés. Par exemple, quand la déglutition est devenue difficile, il fallait être en capacité d'informer directement l'ensemble des personnes qui l'accompagnaient des nouvelles difficultés qu'elles pouvaient rencontrer à un jour donné pour que la prise en charge dans la soirée, par exemple, se passe le mieux possible. Et comme je l'avais dit en préambule, c'est pas elle qui peut jouer ce rôle de transmission, c'est vraiment à l'équipe de trouver des outils pour se transmettre les informations et pour que ça se passe au mieux. Alors parfois, quand on se rencontre au moment du transfert, bien, il arrive qu'on complète les informations qui sont écrites par des informations orales. Ah tiens, c'est comme ça, etc. Mais ça veut dire qu'il n'y a d'une part pas de trace écrite, on ne peut pas retrouver plus tard ce qui s'est passé à chaque moment, mais aussi, si une des parties n'est pas là, comme je disais tripartite, ben, cette partie n'est pas informée des choses comme ça. Et on se retrouve avec ben, peut-être parfois une impression que l'information ne circule pas, un sentiment un peu de malaise, ou même parfois simplement une information qui manque et qui est importante et qu'on doit redécouvrir quelque chose qui doit être redécouvert. Il faut vraiment être attentif avec ces outils-là et prendre soin à les utiliser le mieux possible pour le meilleur de la personne qu'on accompagne. Dans son cahier de vie, on a commencé à noter plein d'éléments de santé, notamment la difficulté d'évolution de la marche, par exemple, le fait qu'il y avait une petite peau abîmée, quand un rhume s'installe aussi, par exemple, il faut pouvoir transmettre l'information. Sur des choses ensuite de la journée, comme par exemple les difficultés à boire ou à manger qu'on rencontre et les astuces qu'on a pu trouver, qu'on essaye de partager avec les autres personnes qui partagent l'accompagnement. Et puis aussi des choses moins faciles à cerner, mais par exemple les humeurs ou les envies du moment qui font qu'on va pouvoir proposer un accompagnement qui répond vraiment aux besoins de la personne. Alors c'est vrai, des fois, on oublie de noter, on s'y prend mal, ou le speed du quotidien fait qu'on n'arrive pas à prendre des notes, et alors il y a des choses qui passent à la trappe. Et tout l'équilibre consiste à pas non plus inonder les autres d'informations, mais à trouver les points importants qui vont permettre de faciliter la suite de la journée et de la semaine, tout en ayant conscience que les dispositifs ou les solutions qu'on trouve à un endroit ne sont pas forcément directement applicables à l'autre part. Notamment, moi je trouve que les professionnels et les parents ont des savoir-faire et puis des savoir-être, ou plutôt une relation avec la personne, qui sont différentes et on ne peut pas forcément faire exactement la même chose. Une fois qu'on a pensé cette transmission du quotidien, il faut aussi pouvoir garder une trace des choses pour le suivi sur le long terme. Et ça, ça fait aussi partie du travail d'équipe, pour que quand on ait un rendez-vous avec quelqu'un, quand on reprenne le temps de regarder ce qui s'est passé, on puisse identifier les points de bascule, les besoins spécifiques, on puisse aussi peut-être informer les gens qui arrivent dans l'équipe des choses spécifiques. Donc par exemple, j'ai mis en place un porte-vue dans lequel il y a une description des contacts, les besoins spécifiques, un résumé de la maladie, un suivi de son poids, de ses crises d'épilepsie. Finalement, c'est un peu un carnet de santé plus qui permet en un document, ou plutôt un ensemble de documents, de parcourir l'ensemble des besoins et de permettre un accompagnement le plus précis possible en prenant conscience de ce qui s'est passé les mois, les années auparavant. Alors, ces deux types de documents, celui du quotidien et puis ce document un peu plus de long terme, ils sont complémentaires, mais il manquait encore un nouveau type d'outil que je suis en train de mettre en place ces derniers temps pour accueillir une nouvelle personne dans le dispositif. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait une facilité de transmission à l'oral. Quand dans une des équipes arrivait une nouvelle personne, on lui donnait les détails importants, les manières de pouvoir prendre au mieux soin des besoins de ma fille. Mais je me suis dit et j'ai compris qu'il fallait aussi garder une trace écrite de tout ce qui pouvait être nécessaire de considérer quand on l'accompagnait. Les rythmes, les habitudes, les rituels, les outils, les dispositifs, tout ça, bien le formaliser dans un document pour que, par exemple, si un auxiliaire de vie ou une auxiliaire de vie arrive à la maison, il y ait, en plus des transmissions orales, un document dans lequel on trouve une synthèse de toutes ces informations. Ce qui est compliqué, et là je vais découvrir ça dans les prochains mois, c'est que si les choses évoluent, et c'est le cas d'une maladie dégénérative, il faudra aussi penser à faire évoluer ce document et à pouvoir l'affiner dans les endroits où il y a besoin de plus de précision, ne pas prendre trop de longueur parce que sinon c'est pas lisible et puis aussi c'est dur à maintenir. Voilà, trouver un équilibre de ce type-là. Mais ça participe de ce travail d'équipe dont je voulais parler aujourd'hui, parce que sans ces documents-là, les transmissions orales seules deviennent quand même un peu difficiles, pour peu qu'il y ait par exemple une nouvelle personne soudain qui arrive. Évidemment, c'est pas confortable, mais en même temps, il faut pouvoir lui transmettre les clés d'accompagnement de ma fille. Ce que j'ai présenté ici est évidemment très lié à la grande dépendance, mais je m'aperçois en replongeant dans ce que j'ai fait dans les années passées qu'il y avait aussi produit des documents un peu semblables et beaucoup plus synthétiques, par exemple quand on partait en vacances ou sur une seule feuille, j'avais regroupé l'ensemble des informations qui pouvaient être utiles en cas d'urgence pour pouvoir échanger au mieux avec ma fille qui commençait à perdre ses capacités à échanger, à se déplacer. Ces outils-là, ils sont donc à adapter suivant les besoins de chaque situation et suivant les besoins de chaque moment, évidemment. J'espère que vous l'aurez perçu à cet épisode. Un travail d'équipe, ça nécessite des outils pour communiquer, ça nécessite de l'organisation et puis un savoir-faire d'adaptation constant. Ces derniers mois, on a été confrontés dans l'accompagnement de ma fille à un nouveau défi, et justement pour lequel on a dû faire preuve d'adaptation pour répondre au mieux aux besoins de dénutrition et d'apparition d'escars. Ce sera donc le sujet du prochain épisode, rendez-vous dans 2 semaines.
Un podcast à retrouver sur lecridelagirafe.org.